Bonjour et puis merci d'être venus aussi nombreux pour cette table ronde qui s'intitule « Vampire un jour, vampire toujours ». Et nous allons pouvoir aborder le sujet, alors de gauche à droite pour moi, avec Jean Marigny, qui est l'un des grands spécialistes de la littérature vampirique en France. Il est auteur de plusieurs livres sur la littérature vampirique en général, comme par exemple Dracula, Prince des Ténèbres, et beaucoup plus récemment, Le Vampire dans la littérature du XXe siècle. Et puis, vous êtes aussi anthologiste. Vous avez fait, par exemple, une anthologie sur les femmes vampires, avec Jacques Finet. Voilà. Georgia Caldera, qui a déjà publié les deux premiers tomes d'une trilogie qui s'intitule Les Larmes Rouges. Marika Galman, qui, elle, a publié 5 volumes de la série Maeve Regan. Alors, je sais que je prononce toujours mal.
Oui.
Voilà.
Vous avez vu,
c'est Maeve, hein. Voilà. Maeve. Bon, vous voyez, j'ai des excuses puisque l'auteur elle-même ne sait pas comment prononcer le prénom de son héroïne. Morgane Cossarieux, qui avait commencé avec Dans les veines, roman vampirique très dur, et dont vous venez de publier une sorte de préquel qui s'intitule « Je suis ton ombre », dont on en parlera tout à l'heure. Et à côté de ça, vous aviez publié aussi une étude qui s'intitule « Vampires et Bayous sur la littérature, la bitlit ». La bitlit et la littérature vampirique, il y a les deux. Et enfin, notre invitée américaine qui vient juste d'arriver parmi nous, Chloé Neal, dont vous connaissez sans doute tous la série Les Vampires de Chicago. Et donc, nous allons rentrer immédiatement dans le sujet. Et je vais demander d'abord à Jean Marigny de nous dire, apparemment, les vampires sont partout avec nous depuis un certain temps. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette éclosion de vampires partout dans le monde ?
Merci. Tout le monde m'entend, oui ? C'est bon ? Oui, bon. Donc, les vampires, ça va faire 2 siècles que les vampires envahissent les rayons de nos bibliothèques, puisque le tout premier ouvrage de fiction sur la question est sorti en 1820. C'était une nouvelle de John William Polidori, qui était le secrétaire de Byron, et qui a eu un succès absolument énorme dans toute l'Europe, puisqu'il a inspiré des romans, non seulement des romans, mais des pièces de théâtre et même un opéra. Et l'une des raisons de ce succès, c'est qu'on attribuait ce roman, cette nouvelle, qui n'est pas d'ailleurs excellente, on l'attribuait à Byron en personne. Et puis après, évidemment, c'est le personnage de Dracula qui a donné véritablement la première impulsion. En 1897, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, en pleine période victorienne. Et si le personnage a eu un tel succès, c'est pour une grande part parce qu'il a été immédiatement, il a séduit les cinéastes du monde entier. Et il y a eu, pendant l'entre-deux-guerres, une véritable passion pour le vampire, surtout d'ailleurs aux États-Unis, plus aux États-Unis qu'en Europe. L'Europe est venue plus tardivement. Et je crois que le grand tournant dans la littérature vampirique, c'est ma théorie, on peut ne pas être d'accord avec, c'est le roman d'Anne Rice en 1976 qui a complètement changé la donne parce que jusque-là, les vampires étaient représentés comme des personnages négatifs, méchants, dangereux. Alors que Anne Rice leur donne la parole et finalement, quand on lit ses romans, on a l'impression que les vampires, comme le dit le t-shirt ici, ne sont pas si, contrairement à ce que dit le t-shirt ici, ne sont pas si méchants que ça et qu'ils ils ont une grande part d'humanité. Alors c'est, je pense, le roman d'Anne Rice qui a lancé la mode du vampire sympathique. Vampire sympathique qui a connu son apogée, si j'ose dire, parce que moi je ne suis pas très amateur, dans la série Twilight, à mon sens, est une véritable catastrophe, parce que on a un vampire.
C'est là où normalement on dit réaction dans la salle.
Parce qu'on a un vampire qui non seulement est gentil, mais qui ne craint pas la lumière du jour, qui ne s'alimente plus de sang humain, qui finalement a toutes les qualités d'un être surnaturel, sauf d'un vampire. On se demande d'ailleurs qu'est-ce qui reste du vampirisme là-dedans. Alors, il y a eu aussi un phénomène dans les années 90 qui est né à la fois de la télévision et des adaptations télévisées, c'est le phénomène des séries. Et nous avons ici une représentante de ces séries, plusieurs représentantes de ces séries, puisque ce sont des séries autour d'une héroïne vampire ou non, ou chasseresse de vampires ou vampire. Ce qui est remarquable, c'est que très souvent, ces romans en série sont écrits par des femmes, hein, et je crois que le panel ici ne le dément pas, hein, sont écrits par des femmes, et les héroïnes sont très souvent des femmes aussi. Hein, donc c'est une littérature très féministe auquel, je crois que c'est les éditions Bragelonne, ont donné le titre générique de Bitlit, hein, qui vient de Byte, et de Literature, hein, la littérature de la morsure, en quelque sorte. Et je pense que cette Bitlit qui a assuré le succès absolument phénoménal du vampire dans le monde de l'édition. Hein. Chaque année, il sort à peu près, j'ai même pas la possibilité de donner un chiffre, des dizaines et des dizaines de nouveaux romans. Alors, depuis environ 2 ans, il semble que le mouvement soit en train de se ralentir. Hein. Parce qu'un nouveau thème dont on parlera ici aussi est en train d'avoir un succès phénoménal, c'est celui des zombies. Hein. Donc je pense que les zombies vont chasser les vampires. Mais rassurez-vous, les vampires ont vu pire que ça, hein, parce qu'ils ont connu des hauts et des bas. Et je pense qu'ils réapparaîtront et qu'ils auront de nouveau du succès, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans. Voilà donc ce que je voulais dire.
Merci beaucoup Jean-Marie. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet, si j'ose dire, parce qu'en principe, on ne naît pas vampire, mais on verra qu'il peut y avoir des exceptions. On devient un jour vampire. Et j'aimerais que nos différents auteurs ici présentes nous parlent un petit peu chacune de la manière dont leurs personnages sont devenus des vampires. Alors, je ne sais pas qui veut commencer.
Alors, Marika. Alors, la mienne est née vampire. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais commencer cette allure. Donc, elle est née vampire, mais elle a aussi été créée dans le but... parce que chez moi, les vampires sont un tout petit peu différents du vampire originel des mythes et de la tradition. Et donc, elle a été créée exprès pour être ce qu'elle est. Mais sinon, les vampires normaux, les autres, sont créés par morsure. Là, c'est très traditionnel.
Oui, parce qu'elle, elle est issue d'une famille de vampires. Son père, son frère et de mages. Ouais.
Justement, tous les deux.
Georgia.
Alors moi, mon héroïne, en fait, c'est un peu spécial, est née hybride, mais de par son âme, en fait. Par contre, c'est une exception, parce que tous les autres vampires naissent uniquement par morsure dans le cadre d'un rituel bien particulier. Donc, voilà.
My vampires are made via what I refer to as a genetic mutation that kind of operates as a virus, so I really take a lot of liberties with the biology. But in order to become a vampire, you have to be bitten by another. There's a 3-day biological transformation. And after that 3 days is done, then you basically have obtained the strength and skills of a vampire, the need for blood, the inability to withstand daylight. Additionally, there are... what was that? There was one more thing I was going to mention. Well, that'll be enough for now.
En ce qui me concerne, eh bien, mes vampires sont créés et suivent un petit peu la tradition dans ce sens-là, mais c'est une sorte de mutation génétique qui se produit. Et donc c'est plutôt comme un virus, et c'est un processus qui prend 3 jours. Et au bout de ces 3 jours, mes vampires ont acquis en fait tous les pouvoirs du vampire, toute la force du vampire. Ils ont également besoin de s'alimenter en sang et ils ne peuvent pas supporter la lumière du jour.
One more little thing. In my mythology, the heart never stops beating, and so vampires are not undead per se. They're just the result of this genetic change from human to vampire. So it's essentially a different species.
C'est une espèce tout à fait différente du vampire traditionnel parce que le cœur n'arrête pas de battre, donc le sang circule dans le corps du vampire.
Alors moi, au début, faut que le vampire te draine de son sang. Ensuite, faut que le vampire te donne son sang et sa salive. Ensuite, il faut boire le sang d'un humain. Ensuite, tu gerbes tes intestins, tout ce que t'as, tu te vides. Et là, enfin, quand tu rebois du sang, tu peux devenir vampire et avoir les pouvoirs. Mais bon, c'est un peu compliqué, c'est un peu douloureux.
Mais d'une manière générale, à part vos vampires, je crois que les vôtres sont aussi plutôt vivants. Parce qu'ils sont capables de faire un certain nombre de choses qui, logiquement, si le cœur ne battait pas, le sang ne pourrait pas être pompé dans certains endroits à des moments cruciaux.
Tout à l'heure, off, j'ai dit à Jean-Luc ce qui est plutôt pratique pour la bitlite, voilà. Donc que le cœur batte toujours. En sachant que chez moi, ils battent aussi toujours parce que mes vampires sont issus d'une malédiction et pas d'un... Je ne sais pas comment on dit, en fait. C'est vraiment une malédiction qui a été jetée sur une personne. Et du coup, c'est pas des vampires, de films d'horreur. C'est vraiment... c'est presque un prétexte chez moi, les vampires, plus qu'une vraie créature.
Mais ils sont semi-vivants.
Ils sont vivants, en fait. Ils sont morts parce qu'ils sont morts de leur vie d'humain, mais ils sont vivants en tant que vampires. Et autant que n'importe quel autre être humain.
Chez vous aussi, Georgia Caldera, ils sont...
Alors, ils sont vivants dans la mesure où le cœur bat, mais nettement plus lentement que chez un humain normal. Par contre, ils tolèrent la lumière du jour. Bon, il ne faut pas trop qu'ils y soient exposés non plus, mais ils la tolèrent. En revanche, il faut qu'ils s'abreuvent de sang humain très régulièrement et de vie humaine également. Voilà.
À Chicago aussi, ils s'abreuvent de sang humain.
They do whenever they can get it.
Oui, quand ils peuvent s'en procurer.
They can eat human food, but they require blood to survive. And within the mythology, because in this series vampires had been assimilated and hidden for a long time, they had developed specialized blood banks. That allow them to drink without injuring or killing humans. It is, in many of the vampire houses in my world, a taboo to drink from humans because that increases the odds that they will be seen and find out and therefore persecuted.
Mes vampires s'alimentent, ils mangent comme vous et moi, mais ils ont besoin également de sang, et donc ça c'est la mythologie. Dans ma série, en fait, les vampires vivent cachés, ils vivent regroupés en des maisons, et parce qu'ils ne veulent pas se faire découvrir par les humains, donc ils ont mis au point des banques de sang. Donc c'est comme ça qu'ils obtiennent leur sang, ils ne mordent pas les humains parce que ça augmenterait les possibilités qu'ils se fassent découvrir.
Alors moi, ils ne boivent pas que du sang, ils boivent tous les fluides du corps humain. Donc ça implique donc très joliment les larmes, mais aussi la sueur, beaucoup moins joliment, le sperme encore moins joliment. Et par rapport au problème d'érection que tu soulevais, Ils peuvent s'ils ont bu du sang avant, ce qui me paraît, assez logique et ce qui m'a toujours un peu choquée dans les, histoires de vampires.
Oui, mais certes, ils boivent le sang, mais comment descend-ils au bon endroit, si j'ose dire.
Bah, ça marche encore, ça marche encore. C'est juste que s'il n'y a pas de sang, ça ne marche pas. Après...
D'ailleurs, ça me fait penser à une question que je me suis toujours posée, et là j'y repense. C'est comment aussi réussissent-ils à faire descendre leur croc?
C'est magique.
Alors moi, c'est un peu comme le mécanisme de l'érection, ça se contrôle pas. Et puis ils le descendent pas vraiment, ils sentent juste que ça tire. Et puis ils ont vraiment des dents très pointues, ils ont pas que des crocs, il y a toutes les dents. Mais les crocs tirent particulièrement sur la gencive.
Marie Kagelmann disait « c'est magique ». Ce qui est une explication un peu brève.
Chez moi, c'est magique.
Et chez vous, Georgia?
C'est un peu le même principe que chez Morgane, hein, ou peut-être comme les crochets d'une vipère. Hein. C'est un peu magique aussi.
Mine are kind of like a viper too, actually. When vampires are excited emotionally or ready to drink, their eyes will silver and their fangs will descend. And if you've ever seen a photograph, there was one on the internet a few weeks ago of a naked skull with baby teeth. The baby teeth and the adult teeth kind of hide, or the adult teeth kind of hide beneath the baby teeth in the skull before they're ready to break through. It's a very grim, macabre picture, but I imagine the fangs operating similarly.
Et chez moi aussi, c'est un peu, les crocs sont un peu comme les crocs de la vipère, les crochets de la vipère, et ils apparaissent quand le vampire éprouve des émotions fortes, quand il est excité, ou alors quand il a très faim, et au même moment, les yeux deviennent un petit peu, deviennent également argentés. Et je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, il y a une photo qui a circulé sur Internet d'un crâne de bébé, et on voyait en fait les dents d'adultes qui sont juste derrière, dans cette photo, on voyait bien les dents d'adultes qui sont juste en fait au-dessus des dents de bébé. Et c'est vraiment bizarre à voir. Et moi, j'imagine que c'est un petit peu comme ça, que les crocs sont là en permanence au-dessus des dents normales.
Ou alors, c'est comme pour les requins, avec les dents qui apparaissent les rangées par rangées. Donc, on vient de voir un peu comment on devenait un vampire dans vos différents romans. Et ensuite, bah, en principe, on reste toujours un vampire. Il y a une sorte d'immortalité. Alors, ce que j'aimerais, c'est que vous nous expliquiez un petit peu, chacune, comment vous voyez la manière dont des gens qui sont immortels peuvent gérer cette immortalité.
Chez moi, enfin dans Les Larmes Rouges, les vampires restent très attachés à l'époque à laquelle ils ont vécu. Donc ils en sont le reflet, ils gardent la mode vestimentaire qui était la leur au moment où ils sont devenus vampires. Et ils traversent les époques avec donc cette conscience d'un siècle bien particulier, tout en essayant de s'adapter. Mais ça donne du coup des résultats assez particuliers en fait.
Oui, j'ai noté à un moment vers la fin du tome 1, il y a un passage très, très amusant lorsque votre héroïne Cornelia accompagne Henri de Maltombe à ce bal à Reading House. Et donc, il faut l'habiller. Alors elle, évidemment, elle est vêtue de manière moderne. Et la femme vampire qui l'habille, il dit... Oh, de toute façon, cette mode moderne, c'est d'une tristesse.
Oui, oui, parce que nécessairement, les femmes, il y a ne serait-ce qu'un siècle, portaient des corsets, des jupes, et aujourd'hui, on vise plus les tenues pratiques, voire aussi unisexes. Et donc, cette femme vampire regrettait l'époque où les femmes préféraient l'esthétique au sens pratique. Voilà.
Marika, vous, votre héroïne, elle ne se pose pas de problème. C'est une femme très moderne, très libérée.
Mais du coup, je réponds quand même à la question oui, de base ou d'accord.
Et comment oui, les donc, autres?
Alors, elle, de toute manière, vu qu'elle est née dans le, ouais, à la fin du siècle dernier, elle est totalement de son époque et elle est bien dans ses baskets, justement, qu'elle affectionne tout particulièrement. Et mes vampires eux-mêmes, eux, bah, contrairement à ceux de Georgia, ils évoluent plutôt avec leur époque. Ils sont, ils suivent les mouvements de l'époque. J'ai d'ailleurs le deuxième vampire le plus âgé qui a quand même bientôt 1500 ans. Qui est très mode, il aime bien s'habiller, il aime bien se maquiller, il aime bien être très tendance, toujours classe jusqu'au bout des ongles. Et lui, du coup, son âge se traduit plutôt avec, il est très désabusé, il prend la vie, il est très sérieux, mais il prend pas du tout la vie au sérieux. Et ben d'ailleurs, l'autre personnage qui a vraiment traversé les siècles, lui est un peu fou et psychopathe. C'est comme ça que. Plus ils sont âgés, plus ils sont âgés, plus ils sont fous.
Oui, c'est une forme de sénilité, en somme.
Ou de génie.
Chloé, chez vous.
In Chicago, well, actually, in the world, the premise here is that the vampires have been assimilated for so long because in addition to witch trials that we saw in Salem, Massachusetts, in the United States, there also were various vampire persecutions. So they decided the best way to live would be to assimilate and to basically adopt the styles of American culture or whatever the culture that they're particularly living in. So they look the same as those around them, and with the exception that because they are immortal, they change identities every few years because otherwise they won't have looked like they've aged at all. At the beginning of the series, vampires are basically, their existence is outed to the world. But even though they have the chance to do things a little bit differently, they stay still basically adopt kind of human characteristics.
À Chicago, ou alors dans mon monde de vampires, mes vampires sont parfaitement assimilés, complètement intégrés à leur milieu. En fait, comme ils ne veulent pas être découverts, il y a eu, vous vous rappelez, les sorcières de Salem. Donc, il y a eu des persécutions de vampires et c'est pour ça qu'ils préfèrent vivre cachés. Et donc, ils sont parfaitement intégrés, ils ressemblent à tout le monde. Mais comme ils sont immortels, tous les 50 ou 60 ans, ils changent d'identité pour pouvoir justement vivre cachés parmi les humains. Et au départ de la série, leur existence devient connue. C'est un vampire qui dévoile l'existence des vampires au grand public. Mais malgré tout, ils veulent être parfaitement intégrés, donc ils ressemblent à tout le monde.
Mais il me semble me souvenir quand même que dans la série Ethan Sullivan, qui est donc le maître des vampires de Chicago, il a quand même du mal à s'adapter aux réactions de Merit, qui elle est une femme moderne.
That's true. He's used to Ethan, since he's master of Cadogan House, really people doing exactly what he tells them to do, which is ironic because he's surrounded himself with free thinkers. I think the theory is that if you want the best possible results for your house, you hire people who are willing to tell you no when necessary, but he's still a surprise when Merritt doesn't do exactly what he asks. He also has a very difficult time with Chicago street food and tries to eat everything with a fork and knife. So he has kind of very old school pretensions that way.
Et donc oui, Ethan, c'est vrai, mais bon, il est maître de la maison Cadogan et il a recruté un personnel très indépendant et en fait, par contre, il est quand même toujours étonné des gens qui sont capables de lui dire non, de refuser, mais il est toujours très étonné quand on lui refuse quoi que ce soit, et il est toujours très étonné par rapport au caractère rebelle de Merit. Mais elle le surprend constamment, et il y a des choses auxquelles il ne s'est jamais habitué, comme par exemple de manger avec les mains, donc il veut tout manger avec un couteau et une fourchette, hein, que ce soit les hot dogs par exemple, il cherche à tout manger avec un couteau et une fourchette.
Alors moi, ils sont pas bloqués du tout dans leur époque parce que en fait ils l'oublient et c'est assez vital pour eux parce que la nostalgie, en fait, c'est ça qui pour moi peut tuer le vampire, le pousser au suicide. Donc j'ai contourné ça en faisant en sorte qu'ils aient pas de mémoire. Voilà. Et le seul qui est peut-être un peu bloqué dans son époque, c'est JF le punk, parce que c'est le vampire le plus jeune. Donc lui, il a encore des souvenirs et il est encore très très branché années 80. Voilà.
Et je crois que là, dans votre roman qui vient de sortir, dans Je suis ton ombre, là, vous développez le personnage de Gabriel. L'enfant vampire, qui est le chef de la bande, en fait.
Oui, alors là, du coup, je développe son passé. Et c'est possible parce que lui, il a tenu un journal intime, en fait, qui lui a permis de se rappeler au fil des ans ce qu'il vivait.
Il a quel âge, Gabriel?
Alors, il avait 8 ans quand ça lui est arrivé. Et là, il en a 300.
Effectivement. Donc, il doit relire souvent un journal très épais, alors.
C'est ça, mais il le réécrit. Il le réécrit à chaque fois.
Si je peux intervenir... J'ai trouvé le personnage de Gabriel tout à fait fascinant. Je dois dire que mon nouveau thème de prédilection maintenant, ce sont les enfants maléfiques. Et chez les vampires, il y a des enfants qui sont particulièrement inquiétants. Je pense en particulier au roman de John Ashville de Lindquist, Laisse-moi entrer. Où on a affaire à une fillette vampire, une fillette, je mets quand même le mot entre guillemets, hein, parce qu'elle a 200 ans d'existence, hein, mais elle a l'aspect d'une enfant de 12 ans, et elle est particulièrement cruelle et féroce, tout en étant charmante. Hein, c'est une enfant à qui on donnerait, si j'ose dire, le bon Dieu sans confession. Hein.
Il y avait aussi dans Anne Rice, si je me souviens bien.
Bien sûr, c'était le modèle. Hein, c'était le modèle. Hein, c'est cette gamine qui joue à la poupée et puis qui étrangle qui assassine les gens dans la rue en les apitoyant. C'est vraiment un personnage extraordinaire, quoi. Claudia qui a donc 7 ans dans le roman. Et dans le film, évidemment, on ne pouvait pas la faire jouer par une actrice de 7 ans, donc on a été obligé de prendre quelqu'un d'un peu plus vieux, mais c'est vraiment un personnage extraordinaire.
Oui, parce que ça, on parlait de malédiction tout à l'heure, là, c'est vraiment atroce de vieillir sans grandir.
Voilà, c'est ça. D'ailleurs, elle est absolument enfermée dans l'aspect physique qu'elle avait lorsqu'elle est morte. Et le jour où elle décide de se faire couper les cheveux repoussent immédiatement. Donc elle ne peut pas échapper ni à son âge réel, ni à son âge.
Soit complètement anéantie, en fait, complètement détruite avec des pieux de tremble. Donc j'ai gardé ces aspects-là. Par contre, ils peuvent manger de l'ail. Moi, j'ai expliqué que c'était un mythe chez les humains, que les vampires ne pouvaient pas manger d'ail. Donc j'ai gardé, en fait, que l'ail les faisait cuire. Donc j'ai gardé certains des aspects
Alors, les miens, c'est une malédiction du sang, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est un mage qui a voulu sauver, en fait, la femme qu'il aimait, et les choses se sont mal produites. Et la première vampire est morte. Et du coup, c'était déjà pas la question de base. Et donc, tout ce qui reste à cause de cette malédiction du sang, c'est qu'elle, ils doivent absorber l'énergie qu'ils n'ont plus pour vivre dans le sang des humains. Donc concrètement, les miens ne craignent pas le soleil, ils ne mangent pas, mais ils n'ont rien contre l'ail. Ils n'ont pas peur des croix religieuses, il n'y a rien. C'est vraiment une malédiction du sang chez moi.
Alors, les larmes rouges, moi, mes vampires s'apparenteraient plus à ceux d'Anne-Rice, hein, à la différence que qui tolère le soleil. Mais ils dorment dans des cercueils, ils en ont besoin pour se régénérer. Après, pour eux, c'est une espèce de malédiction, enfin, pour certains d'entre eux, parce qu'ils gardent une conscience malgré tout qui reste humaine, mais ils ont ce besoin de cruauté qui est en eux et qu'ils doivent gérer. Voilà.
Je voudrais intervenir aussi pour dire que le phénomène général dans la métamorphose des vampires du XXe siècle, c'est qu'ils sont un peu débarrassés de tout côté magique, de tout côté surnaturel, de tout côté religieux de leur être. En particulier, vous savez que les vampires, dans la tradition légendaire, pouvaient se transformer en chauve-souris, pouvaient se transformer en insectes, pouvaient commander à un phénomène météorologique, étaient absolument allergiques à tout ce qui était du ressort de la religion. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas que l'eau bénite les brûlait comme de l'acide, ils ne pouvaient pas traverser le cours d'eau, etc. Alors tout ce fatras pseudo-magique a complètement disparu. Et maintenant, les vampires. Alors, la science-fiction, évidemment, c'est également pareil des vampires. Et dans ce contexte, les vampires sont soit des extraterrestres, soit des mutants, soit une race différente de l'humanité qui a vécu parmi nous sans. Donc, il y a une rationalisation, en quelque sorte, du.
Parce qu'il évolue justement avec la société, maintenant on n'a plus autant peur de Dieu. Il peut sortir la journée parce qu'on n'a plus autant peur de la nuit, il y a toutes ces choses justement qui ont évolué, et qui ben maintenant si c'est remplacé dans la science-fiction avec c'est une autre peur de l'autre qui vient de l'espace.
Alors, moi mes vampires par contre, il y a une dimension, il y a un rapport à la religion difficile. Mais ça fait partie en fait du mystère de mon histoire et du mystère de l'origine des vampires. Donc, voilà, mais ils possèdent des pouvoirs magiques, alors ils ne se transforment pas, ni en chauve-souris, ni en insectes, mais ils influent sur les éléments, ils ont des pouvoirs magiques. Hein.
My vampires don't have magical powers per se, but they exude magic when they are nervous or excited or have a very strong thought. Because I wanted to make them, I mean, they have certain strengths that are kind of ranked national or internationally. They can have certain psychic powers or physical strength or political strength, which is how vampires gauge their self-confidence, I think, in some way. But they're really just a portion of kind of a larger magical world without any inherent powers of their own, but they have a certain magicness. It's kind of I think Piers Anthony developed a system where you either can do magic or you are magic. Vampires in this world are essentially a little bit magic, but they cannot do it on their own.
Ils n'ont pas vraiment de capacité de faire de la magie, mais ils projettent une aura magique. Donc c'est quelque chose de très fort chez eux, ça dépend des circonstances, mais ils sont capables de projeter cette aura magique. Ils ont des pouvoirs par contre psychiques ou politiques, c'est très important pour eux cette question de pouvoir politique, mais ils évoluent dans un monde magique en fait. C'est comme Piers Anthony qui avait développé ce système où soit on était soi-même magique, soit on pouvait faire de la magie pour un ou l'autre, soit on est magique, soit on peut faire de la magie. Je suis un petit peu basée là-dessus.
je voulais éviter tout aspect magique, je voulais que mes vampires soient très très réalistes. Et donc en fait j'ai troqué la magie par l'organique. Ils sont forts, ils ont une aura, mais elle n'est pas magique, hein, c'est des phéromones, c'est des choses qui attirent, mais c'est que des choses qu'on peut peut-être expliquer, pas forcément très scientifiquement, mais c'est quelque chose qu'on peut vraiment appréhender. Il y a juste l'enfant vampire, Gabriel, qui a des pouvoirs psychiques, il peut lire les pensées et peut-être influencer un peu sur les actions des autres. Mais c'est des choses qui m'ont plus fait penser à des films de Cronenberg comme Scanner. C'est pas vraiment le. Enfin, vraiment la magie m'intéressait pas.
Un point qui m'a frappé aussi, et justement ce que Jean-Marie venait de dire sur l'image traditionnelle du vampire et les interactions des vampires avec les animaux, c'est que chez deux d'entre vous, Georgia Caldera et Margaret Cossacqueux, les vampires ont des chiens. Alors que chez vous, Marie Tagalma, et chez Luc Lenir, apparemment, les animaux de compagnie et de garde, parce que les chiens, dans les deux autres cas, sont aussi des chiens, et surtout des chiens de garde, il n'y en a pas. Alors, pensez que c'est un choix. Est-ce que c'est parce que vous êtes des amateurs de chiens que vous avez décidé d'en mettre? Et vous, Marika et vous, Chloé, vous aimez les chats, alors c'était plus difficile.
Alors, chez moi, je réponds très rapidement. Les vampires existent, mais pas les animaux de compagnie. Oui, en effet, Henri de Malton, mon vampire principal, possède un chien. Alors, notamment parce que c'est assez pratique, les vampires ont de grands pouvoirs d'envoûtement. Alors, c'est plus difficile avec les humains, mais c'est nettement plus facile avec les chiens. Donc, voilà, c'est aussi pour le côté pratique de la chose.
Et il a toujours eu des chiens parce que. Avant Hadès, il avait tout le temps.
Exactement, tout à fait. Alors moi, c'est pas un chien, c'est un loup. Et ils ont un loup parce que eux-mêmes, ce sont des animaux. Je voulais vraiment un petit peu insister sur ce côté qu'ils sont très très en communion avec cet animal parce que c'est des bêtes aussi. Je voulais aussi faire un deuil à Dracula. D'ailleurs, le loup s'appelle Dracula. Et puis c'était très utile parce que c'est leur gardien durant la journée pendant qu'il dort. Donc une petite protection en plus. Et quand on massacre tout Bordeaux à tour de bras, c'est quand même un peu pratique comme flic de se mettre.
Black vampires don't have relationships with animals because they just don't have that much magic. There is an entire system of shapeshifters across the world that are divided into packs. And they can, each family, each biological family can change into a different animal. So there's that connection. But the vampires themselves don't have that kind of historical connection to animals. Although I do think Merritt would really like to have a dog at some point, and I would like to get her a dog.
Alors chez moi, les vampires n'ont pas d'animaux, parce que en fait, ça ne fait pas partie de leur magie, n'ont pas d'animaux domestiques. Mais bon, je pense que Merritt aimerait bien avoir un chien et. Ça va un jour, mais c'est que dans le monde magique dans lequel ils évoluent, il y a des meutes de métamorphes, et ces métamorphes peuvent se transformer en différents animaux. Donc il y a déjà cet aspect dans mon roman, mais par le piochement des métamorphes.
Il suffit qu'elle adopte un métamorphe.
That's a very good idea. I have to make a mental note of that.
J'en prends bonne note, c'est une excellente idée.
Donc nous allons guetter l'adoption par Mérite d'un bébé métamorphe.
Maybe. One of my ideas for if I was ever fortunate enough to be able to do Vampires the Next Generation is to really set up a relationship between a shifter and a vampire romantically and actually say that there's a lot of tension and irritation there and that vampires and shifters shouldn't mix. So I have the exact opposite situation planned.
C'est une excellente idée parce qu'une de mes idées pour, en fait, si jamais je fais une nouvelle, les vampires de nouvelle génération, c'était justement un lien entre un métamorphe et un vampire et les tensions que cela supposerait, ce genre de lien. Donc peut-être que je revois ces idées et que j'aborde la question sous un autre angle.
Bien, je vois que l'heure a tourné. Alors peut-être en conclusion, pour revenir, alors mesdames et Jean-Marie, les vampires pour toujours avec nous.
Moi, je pense que les vampires ont tout l'avenir devant eux, hein. Même si je suis un peu inquiet à l'heure actuelle par l'arrivée en masse des zombies qui va un petit peu les éclipser. Mais comme je le disais, ils reviendront. Parce que moi, j'ai constaté une chose, c'est que les vampires reviennent périodiquement en période de crise. Le premier engouement pour les vampires, ça a été après la crise de Wall Street en 1929. Hein, le personnage de Dracula au cinéma incarnait le personnage de l'étranger qui détestait, qui vient piquer le boulot des braves citoyens. Hein. Ensuite, au moment de la guerre froide, le vampire représentait les puissances communistes de l'Est qui voulaient remettre en cause la Pax Americana. Après, il y a eu la crise de 68, hein, les années 70, où la société de consommation a été remise en question. Et à ce moment-là, le vampire avait son rôle à jouer. Et puis là, je n'ai pas besoin de faire un dessin. Nous sommes en pleine crise. Donc, ça explique aussi pourquoi et il y aura encore des crises et il y aura encore bien des vampires à venir.
Oui, je pense également que le vampire est une figure pérenne, que ce soit au cinéma ou dans la littérature, d'autant plus que on a vu avec certains vampires comme ceux de Twilight, on peut les réadapter. Je pense qu'ils se renouvelleront toujours, ils vont se faire peut-être un peu plus discret pendant un temps et puis reviendront en force. Voilà, une bientôt.
Le vampire est très souple. Alors, je pense aussi qu'on va en entendre un peu moins parler, et peut-être c'est une bonne chose parce que personnellement, j'adore ma série, j'adore mes vampires, mais j'en ai soupé du vampire sur un plan personnel. Peut-être que j'ai toujours un nouveau personnage, j'espère un retour du vrai méchant vampire, comme le vampire de mon enfance qui faisait vraiment peur, celui qu'on essayait d'éviter et pas d'attirer chez soi. Voilà. Donc, avant de vraiment passer à autre chose, je fais d'ailleurs une novella qui parle de vampires, justement, qui sont sens premier du terme, enfin, sens de mon enfance du terme. Et sinon, je pense aussi qu'il va y avoir une petite pause de vampires et qu'ils vont venir aux passeurs de soucis, toujours se relever de leur tombe.
Donc, vous faites une pause vampire, puisque là, le cinquième tome.
Sort aujourd'hui.
Voilà. Et c'est le dernier.
C'est le dernier, c'est la fin.
Donc vous faites la pause vampire et puis vous reprendrez après.
Alors non, je fais.
On est autant essayer d'avoir des informations de première main.
Je termine actuellement une novella en 6 épisodes au Petit Caveau qui parle aussi de vampire, puisque le Petit Caveau, c'est uniquement numérique et c'est un éditeur qui fait que du vampire. Et une fois que ça c'est fait, les vampires. Vous pouvez mettre noir sur blanc, je ne touche plus. Hein, donc dans 15 ans, quand j'aurai sorti quelque chose avec des vampires, vous pourrez venir vers moi et me dire qu'est-ce que tu nous as raconté.
I'm currently writing the 11th of what will ultimately be 13 books in the Chicagoland Vampire series, so I hope they stay around for at least a few more years. But I have heard, and I was actually at a conference last week, that the market, the publishing market in the United States. For urban fantasy, including vampires, has slowed somewhat just because there's a lot of it out there. But vampires are an international myth. You find them in so many, the theory of kind of a blood-sucking demon anyways is found in so many cultures across the world that I think it's really a cyclical issue. And they'll kind of, even if they fade away for now, ultimately will probably come back at some point.
Alors personnellement, je suis en train de rédiger le 11e volume, le 11e tome de ma série des vampires de Chicago, qui devrait en compter 13. Donc j'espère qu'on continuera à s'intéresser encore un petit moment aux vampires. Je sais qu'aux États-Unis, il y a quand même un petit ralentissement au niveau de l'étude, de la popularité de l'étude, mais sans doute parce qu'il y en a eu tellement. Mais à mon avis, les vampires ou ces animaux qui ou ces êtres qui mangent le sang, qui boivent plutôt le sang des humains, sont présents dans presque toutes les cultures. Donc à mon avis, les vampires fonctionnent par cycle et on aura de nouveaux cycles de popularité des vampires.
Moi, c'est une créature qui m'est très chère, donc j'espère qu'elle va durer. Moi, ça ne va plus tout dégoûter d'avoir écrit deux bouquins de vampires. Donc, je ne sais pas encore si je vais continuer dedans, mais c'est sûr que je reviendrai à un moment donné. Et puis, comme disait Jean, oui, c'est vraiment une créature qui revient à peu près tous les 10 ans avec des nouvelles œuvres phares qui le redéfinissent. Et puis, c'est quand même l'héros de Thanatos qui a un décal super fort, donc ça ne peut pas se démêler. Et même si on ne fait que le vampire héros en ce moment, le Thanatos va revenir et se perdre en face. Moi, je m'y emploie.
En tout cas, nous, lecteurs, nous espérons que nous allons conserver encore les vampires pendant le temps. Et il ne reste qu'à vous remercier tous les 5 pour vos interventions tout à fait passionnantes.